Je demande à présent à Jiří Benovský de venir nous rejoindre. Jiří Benovský est chercheur à l'Université de Fribourg et à l'Université de Neuchâtel. Son domaine de recherche est très large puisqu'il couvre la métaphysique, la métamétaphysique, la philosophie de l'esprit et l'esthétique. Il est l'auteur de nombre d'articles ainsi que de plusieurs ouvrages, dont tout récemment le volume paru chez Springer 2019, Mind and Matter, Panpsychism, Dual Aspect Monism and the Combination Problem. On lui doit aussi Eliminativism, Objects and Persons, The Virtues of Non-Existence, 2018 chez Routledge, ou encore Metametaphysics, Metaphysical Equivalence, Primitiveness and Theory Choice, 2016. En français, Jiří a co-dirigé une excellente anthologie des principaux textes, donc déjà classiques de la philosophie contemporaine, sous le titre Philosophie du temps, donc en 2018, aux éditions de la Baconnière, ouvrage que je recommande vivement à ceux qui s'introduiraient simplement encore à ces questions. J'ajouterai qu'entre autres qualités, Jiří est aussi un remarquable photographe. On lui doit un brillant « Qu'est-ce que une photographie ?» paru chez Vrin en 2010, et une excellente approche aussi, très originale, de la philosophie, dans ce livre paru aux éditions d'Ithac en 2010, le « Puzzle philosophique ». Mais aujourd'hui, c'est le métaphysicien du temps que nous allons plus particulièrement écouter, et donc nous attendons tous avec impatience ce qu'il va nous apprendre sur les intuitions métaphysiques qui sont les nôtres à propos de l'endurantisme et des théories A et B du temps.
Merci beaucoup de l'invitation et pour toute l'organisation impeccable. Et merci d'être venu et de me laisser la possibilité de parler de ces quelques notions. Aujourd'hui, je poursuis un objectif vraiment assez modeste. Je ne vais pas défendre la théorie dite B du temps ni le perdurantisme, comme je le fais d'habitude. Et je ne vais pas essayer de réfuter ou rejeter la théorie dite A du temps ou l'endurantisme, comme je le fais aussi d'habitude. Je vais m'intéresser à une raison que certaines personnes ont de préférer la théorie A du temps. Et je vais essayer de dire que c'est une mauvaise raison. Ce qui ne signifie pas que la théorie A du temps est fausse. Il peut y avoir d'autres raisons. Et ce qui ne signifie pas non plus que la théorie B du temps est bonne, c'est simplement qu'il y a une raison qu'on pourrait avoir et que certains et certaines ont pour la théorie A du temps, qui est, je pense, mauvaise et qu'il ne faut pas avoir, et qui est symptomatique d'un certain nombre de cas en métaphysique où on a parfois une mauvaise raison. Pardon ? Ok. Il faut être très près des micros. D'accord. Donc ce cas particulier ici peut, je pense, ensuite être généralisé à d'autres cas, mais que je ne vais pas discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment focaliser sur celui-ci. L'intuition à laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui, je vais l'appeler l'intuition endurantiste. Je vais préciser un peu plus ce que cela veut dire. Il s'agit de l'intuition qu'on peut avoir, que les objets persistent à travers le temps en étant identiques et entièrement localisés à tous les temps auxquels ils existent. Ceci est plus ou moins une sorte de définition vague et une première définition de l'endurantisme. Et cette intuition, dont je vais parler plus en détail, est souvent utilisée, ou en tout cas parfois utilisée, comme étant une motivation pour certaines théories concernant le passage du temps, concernant la persistance à travers le temps et concernant aussi deux ou trois autres choses dont je vais parler. Notamment les théories qui concernent également la nature du sujet. Donc cette intuition-là, elle est derrière tout un tas de choses importantes en métaphysique. Et moi, ce que je vais essayer de dire, c'est que cette intuition n'est pas mauvaise dans le sens où elle serait confuse ou incohérente. Je pense que nous avons en effet ce type d'intuition et qu'elles ont un rôle. mais elles ne peuvent pas jouer un rôle argumentatif ou explicatif ou justificatif pour défendre certaines théories métaphysiques. Alors, cette intuition, assez souvent, est exprimée comme étant non pas une intuition endurantiste, mais comme étant une intuition anti-perdurantiste. C'est-à-dire qu'on va exprimer l'intuition qu'on a en rejetant la conception perdurantiste. Alors, voici des exemples de qualificatifs du perdurantisme par des personnes qui ont travaillé dans ce domaine. Voici une citation. J'ai préservé les citations en anglais. Je vais aussi les lire en anglais, mais n'hésitez pas à me solliciter s'il faut une traduction. No one else than the perdurantist would say that only temporal parts of Hilary and Tenzing Norgay, que l'on voit ici sur la photo, climbed only a part of Everest in 1953. The rest of us think those two whole men climbed that one whole mountain and that all three parties were wholly present. Okay? Ça, c'est une façon de dire que le perdurantisme et ce discours de partie temporelle est un peu à côté de la plaque, que ça ne correspond pas du tout à notre manière de voir le monde. Et il y en a quelques autres. Outside philosophical seminars, a perdurantist never says, a two-hour phase of me last night was a waking phase. Okay, he says, with the rest of us, I was awake for 2 hours last night. Okay? Ça, c'est quelque chose qui va dans la même direction. Cette intuition endurantiste ou anti-perdurantiste se retrouve aussi dans le débat concernant la nature du sujet, la nature du soi. Il s'agit bien sûr de l'idée que le sujet est quelque chose qui persiste à travers le temps et que cette entité qui persiste à travers le temps est entièrement localisée et numériquement identique à différents moments dans le temps. Alors nous avons ici quelqu'un, juste avant de lire ça, c'est le lien entre la notion du sujet persistant à travers le temps et l'endurantisme n'est pas toujours mis de façon complètement explicite dans la littérature. Mais ici, on a le cas de quelqu'un, de Martine Nida-Rumelin, qui le fait de façon très explicite et très forte. Donc je suis très heureux d'avoir quelqu'un qui dit les choses comme ça, de façon très claire. Alors lisons ces deux citations qui lient le dualisme, donc le dualisme en tant que théorie dans le domaine de la philosophie de l'esprit, avec l'endurantisme. According to the subject-body dualism, the subject is an individual that exists wholly at any given moment of its existence and persists across time while changing its properties. According to subject-body dualism, subjects endure and they do not perdure. L'italique vient de moi pour souligner ce passage-là. And elle ajoute, one of the main motivations for subject-body dualism is based on intuitions concerning the identity across time. So l'idée ici, c'est que lorsqu'on s'intéresse en philosophie de l'esprit à comprendre ce que c'est le sujet et quel est le rapport entre l'esprit et le cerveau, eh bien même ici, l'endurantisme, l'intuition endurantiste joue un rôle central et elle fait même partie de la définition de ce que c'est que le dualisme. D'accord? Donc, c'est une position très claire et très forte qui va dans ce sens-là. Cette intuition endurantiste joue, évidemment, j'aurais peut-être pu même commencer par là, un rôle dans notre compréhension et dans nos théories concernant le passage du temps. Voici encore une citation qui va dans ce sens-là. Whatever the future draws nearer to or the past recedes from must be something that can exist at different positions in time with its identity intact, the enduring self. I exist in my entirety at successive moments in time, thereby moving in my entirety with respect to events. As I move through time, future events draw nearer to me and past events recede. Time truly passes in the sense that it passes me. Donc, ici aussi, on voit que même la notion même de ce que c'est que le passage du temps est à comprendre en termes de moi qui endure à travers le temps. Et le temps et les événements me passant de la façon dont c'est exprimé ici. Okay. La théorie dite A du temps est ainsi motivée par l'idée qu'elle seule peut expliquer le fait que le temps passe, ce fait étant apparent, dans notre expérience du temps comme passant s'écoulant, dans notre expérience de nous-mêmes comme endurant, comme étant passé par le temps. Donc ici aussi, l'intuition endurantiste, le fait que nous endurons, puisque nous ne sommes finalement qu'un cas particulier ou particulièrement intéressant de tous les objets qui sont endurants, selon l'endurantisme, joue un rôle dans la compréhension de ce que c'est que le passage du temps. Donc la définition même du passage du temps passe par cette intuition-là. Donc nous avons vu ici quelques cas et quelques citations de différents lieux, théories, notions, où cette intuition endurantiste joue un rôle. Et ce sont des endroits importants. Il ne s'agit de rien de moins que de comprendre la nature du temps et la nature de l'esprit par rapport au cerveau. Ce sont les grandes questions. Et derrière ces grandes questions, il y a cette intuition-là. Cette intuition que les objets endurent et ne perdurent pas, et que nous aussi, en tant que sujets, endurons et ne perdurons pas. Et de ceci, on peut faire un argument en faveur de la théorie A, dite A, du temps. Et c'est un argument présent dans la littérature. L'argument a une structure générale simple. Premièrement, nous avons l'expérience du temps comme passant. Ça, c'est une considération phénoménologique qui correspond, qui est censée correspondre à notre conception ordinaire et à notre phénoménologie du passage du temps. Ensuite, il y a l'argument à proprement parler métaphysique, théorique. Seule la théorie A et non la théorie B peut rendre compte du passage du temps. Alors ça, évidemment, c'est à discuter, mais cet argument-là utilise ceci. Et en conclusion, la théorie A, c'est la bonne théorie. Donc nous partons d'une considération phénoménologique qui est censée représenter notre expérience ordinaire du temps et notre intuition de choses qui endurent et qui ne perdurent pas, et nous arrivons à la conclusion métaphysique que la théorie A est une meilleure théorie. Donc en partant d'une considération phénoménologique, on arrive à une conclusion métaphysique. Okay, alors nous avons ici quelques citations qui vont dans ce sens-là. Does our impression of the flow of time tell us nothing at all about how time is opposed as to how it merely appears to us? I find it impossible to relinquish the sensation of a flowing time and a moving present moment. It is something so basic to my experience of the world that I am repelled by the claim that it is only an illusion or misperception. Donc ici l'idée est précisément de prendre véritablement au sérieux l'expérience phénoménale que nous avons et d'en tirer les conclusions métaphysiques qui s'imposent. Seconde citation, experience is a defeater that overwhelms any be theoretic arguments against the reality of tense. Okay? C'est encore plus fort. Tous les bons arguments dont certains Robin a listé, considérations concernant la physique par exemple, etc., sont à rejeter pour une seule raison, et c'est notre expérience. Notre expérience phénoménale est plus importante que n'importe quelle autre raison qu'on pourrait avoir en faveur de la théorie B du temps. Okay? Donc ce type d'argument qui est ici à droite sont utilisés et sont conçus et pensés comme étant très puissants, comme étant vraiment très forts. L'idée, le rôle de l'intuition endurantiste est évident ici. The illusion of passage derives at least in part from the fact that experience represents objects as enduring rather than perduring. Je vais m'intéresser à ceci un peu plus dans la suite de l'exposé, mais c'est une idée que l'on trouve chez Prosser qui discute aussi cela. Bien, alors je vais commencer de la façon suivante. C'est quelque chose d'assez trivial. Mais j'aime les choses triviales parce que si elles sont triviales, ça veut dire qu'elles sont vraies. Alors ça m'intéresse. Au cinéma, voilà, on a une expérience de mouvement. Hein, on voit Superman voler sur l'écran. Mais on sait très bien, tous et toutes, qu'il n'y a pas véritablement un mouvement, hein, qu'il s'agit d'une succession d'images statiques qui sont projetées. Alors, on a ici une distinction à faire entre un mouvement apparent, ce qui est le cas dans le cinéma, et un mouvement réel. Cette illusion de mouvement, qui est le cas dans le cinéma, est totalement indépendante du fait que nous sachions ou pas comment fonctionne le cinéma. Donc quelqu'un qui sait parfaitement que le cinéma consiste en une projection d'images à 24 ou 25 images secondes, qui sont des images statiques et qu'il n'y a donc pas réellement de mouvement, a tout de même l'illusion de voir Superman voler. C'est quelque chose qui persiste et qui n'a rien à voir avec notre croyance ou notre savoir concernant la réalité du mouvement. On peut très bien, parfaitement bien savoir qu'il n'y a pas de mouvement réel, mais l'illusion visuelle persiste. Et on va voir dans la suite de l'exposé pourquoi et pourquoi ceci est important. Dans une expérience ordinaire, donc pas au cinéma, on prend un cas réel, on regarde un enfant qui court. Nous n'avons pas une succession d'expériences instantanées, isolées, correspondant aux différents états de l'enfant, mais on a une expérience continue. Alors, il y a ici une sorte de tension ou de difficulté à expliquer qui est classique. Alors, j'ai mis ici deux citations très connues qui l'illustrent. La première de William James, « A succession of feelings in and of itself is not a feeling of succession. And since to our successive feelings, a feeling of their own succession is added, that must be treated as an additional fact requiring its own special elucidation. » Donc, il s'agit de quelque chose à élucider, à essayer de comprendre. Husserl nous dit « The duration of sensation and the sensation of duration are different. » The succession of sensations and the sensation of succession are not the same. Okay, donc, l'idée ici, c'est simplement de dire, nous avons quelque chose comme le mouvement apparent, nous avons quelque chose comme le mouvement réel, et il s'agit de comprendre le lien entre ces deux choses. Alors, je vais essayer maintenant de proposer une compréhension qui ensuite nous sera utile pour comprendre, ou plus exactement, pour rejeter cet argument contre la théorie dite A du temps. Alors, on a différents cas de figure. Alors, on a soit des mouvements trop lents, soit trop rapides, soit ceux qui vont à la bonne vitesse. Alors, les mouvements trop lents, c'est l'exemple de la petite aiguille sur une horloge. Vous regardez la petite aiguille sur une horloge, vous pouvez voir, si vous regardez suffisamment longtemps, qu'elle a bougé, puisque vous remarquez qu'elle est à un endroit où elle ne se trouvait pas il y a un certain temps. Mais vous ne pouvez pas la voir bouger parce que son mouvement est trop lent. Et votre système perceptuel, notre système perceptuel, ne nous permet pas de voir ce mouvement-là. D'accord ? Ensuite, nous avons le cas de mouvement trop rapide. Alors, j'ai pris ici comme exemple, mettons un point sur un écran d'ordinateur, par exemple, qui se déplace très vite sur une trajectoire circulaire. Ce que nous allons voir, et en effet, c'est comme ça que fonctionnent les écrans, nous allons voir un cercle. Nous n'allons pas voir de mouvement du tout. Hein, et nous n'allons en tout cas pas voir un point qui se déplace comme ça en cercle. Si le mouvement est suffisamment rapide, on ne verra plus le mouvement, on verra simplement un cercle dans ce cas-là. Et c'est simplement parce que ce mouvement est là, le mouvement là est trop rapide. Donc on ne verra pas de mouvement. Et puis nous avons les cas où il y a des mouvements qui se déroulent à vitesse appropriée. L'enfant qui court, hein, et il court à une vitesse qui se situe dans la zone où nos capacités recognitionnelles, je ne sais pas si ça c'est du bon français, de nos capacités de reconnaissance de mouvement sont aptes à le reconnaître et à l'interpréter comme un mouvement. Donc on a ces trois cas de figure-là. Ce qui est important ici, c'est que notre système perceptuel reçoit des données, des inputs du monde qui nous entoure et construit pour nous une expérience du mouvement. Et ceci est entièrement indépendant de s'il y a un mouvement ou pas. C'est cela qu'on a vu avec tous les cas précédents. On a le cas du cinéma, on a le cas de mouvements trop lents. Donc, dans le cas du cinéma ou bien dans le cas du mouvement trop rapide que j'ai mentionné à l'instant, il n'y a pas de mouvement, il s'agit simplement d'une succession d'images statiques ou d'une succession de points allumés les uns après les autres. Donc il n'y a pas véritablement de mouvement, mais nous pouvons quand même avoir une impression de mouvement dans le cas de Superman ou pas dans le cas du cercle. Dans le cas de mouvement trop lent, eh bien, il y a un mouvement véritable, mais nous n'avons pas l'impression de mouvement. Et puis, il y a tous les cas, heureusement, disons, qui sont dans la bonne fourchette de vitesse et que nous sommes capables de percevoir et de voir comme tel. La chose à retenir ici concerne vraiment ce que j'ai mis là en italique, c'est-à-dire que, indépendamment du fait qu'il y ait réellement un mouvement ou pas, nous pouvons avoir une expérience comme s'il y a un mouvement ou pas, suivant les cas de figure. Donc la chose à retenir ici, c'est qu'il y a une indépendance entre notre expérience et ce qui est le cas dans la réalité. Et à partir de là, vous pouvez assez facilement deviner la suite de mon exposé, je pense. Okay. Mais je vais encore l'élaborer un peu plus pour asseoir mieux la conclusion que vous pouvez facilement pressentir. Voici encore certains éléments qui vont nous aider. Alors, l'idée, c'est que notre expérience de mouvement et de changement consiste en quelque sorte en deux étapes. La première étape consiste en un enregistrement précognitif par notre système perceptuel des inputs que l'on reçoit du monde. D'accord ? Donc, quand je dis précognitif, je veux dire non conscient, non phénoménal. D'accord. Notre système perceptuel reçoit ces données brutes et les interprète sans que nous en soyons conscients, sans que cela apparaisse dans notre conscience, comme quelques-uns l'ont formulé. Et ensuite, il y a la deuxième étape où nous avons une expérience phénoménale dont nous sommes conscients, qui est donc accessible pour nous et qui est ou pas une expérience de mouvement ou de changement, selon les cas dans lesquels on se trouve. Et encore une fois, indépendamment du fait qu'il y a eu ou pas réellement un mouvement dans le monde. Alors, cette manière de comprendre les choses, j'espère, clarifie un petit peu ce qui se passe et nous permet de mieux le comprendre. Première étape, pas consciente, c'est notre système perceptuel, notre cerveau qui travaille avant que ça atteigne notre conscience et notre expérience phénoménale. Et deuxième étape, qui est consciente, notre expérience phénoménale. Alors, l'exemple qu'on ne voit plus à cause du texte, mais c'était les deux points sur l'écran d'ordinateur qui est là derrière, je vais le remettre vite comme ça. L'exemple qui ressemble un peu aux exemples précédents, c'est celui de deux points qui s'allument l'un après l'autre sur un écran d'ordinateur. Alors, même si nous savons que ce sont deux points allumés en alternance, si la succession se produit à la vitesse appropriée, c'est-à-dire ni trop vite ni trop lentement, alors nous aurons l'illusion d'un point qui se déplace d'un côté à un autre, qui est sans cesse en train de bouger d'un côté à un autre. On parle ici d'apparent motion dans les écrits de Robin Le Poitevin, cette notion est discutée également chez Laurie Paul, mais bien sûr chez beaucoup d'autres. Notre système perceptuel interprète les stimuli successifs à un niveau psychoneurologique, mais pas conscient, et nous fournit l'expérience de mouvement qu'il fabrique avant qu'elle n'atteigne notre conscience. Ça, c'est un petit peu le point à retenir ici et auquel je voulais arriver avec ces différents exemples et avec cette idée que la perception de mouvement, de changement, se fait en deux étapes, hein, de cette façon-là. Okay. Et ceci nous permet de bien comprendre et bien expliquer cette tension que j'avais mis en lumière tout à l'heure entre l'apparence de mouvement et le mouvement réel. On comprend, j'espère, un peu mieux comment ceci peut s'articuler. Alors ici, on revient un petit peu à la théorie A et à la théorie B du temps. Je pense que le chemin est maintenant tout tracé. Alors, la manière dont nous percevons le mouvement ou le changement est due à la façon contingente dont notre système perceptuel, en particulier notre cerveau, est fait. Ça, c'est une chose à ajouter. C'est que nous sommes faits d'une certaine manière et que nous aurions pu avoir été faits d'une autre manière. Par exemple, cette fameuse fourchette dans laquelle nous sommes capables de détecter les mouvements trop rapides ou trop lents, etc., aurait pu être tout à fait différente. Elle aurait pu être plus petite, elle aurait pu être plus large, elle aurait pu être située à des vitesses différentes, etc., etc. Pour cela, comme j'ai déjà dit, nous pouvons avoir une expérience de mouvement lorsqu'il n'y en a pas, ou ne pas en avoir une lorsqu'il y a. Donc, encore une fois, il y a cette indépendance entre notre expérience et ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, considérez un monde où la théorie dite A est vraie, un monde possible, pas le monde actuel, j'ajoute. Dans un monde endurantiste où la théorie A est vraie, nous aurions une expérience de mouvement et du passage du temps d'un certain type. Okay. Maintenant, dans un monde, le monde actuel, dans un monde perdurantiste où la théorie B est vraie, nous aurions également une expérience de mouvement et de passage du temps du même type, comme au cinéma. Je regarde un enfant qui court au cinéma dans un film, je regarde un enfant qui court dans le jardin, j'ai une expérience du même type. Okay. Je suis dans un monde possible de type A, je suis dans un monde possible de type B, et j'ai une expérience de mouvement, de changement du même type, okay, pour des raisons similaires au cinéma. Okay. Notre expérience serait la même, peu importe le monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est cela la chose importante. Okay. Alors, j'ai ajouté ici, entre parenthèses, que le monde actuel est le monde B et pas le monde A, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que peu importe le monde dans lequel nous sommes, notre expérience, elle, ne change pas, elle serait la même. Okay. Et donc, encore une fois, comme je disais au début, ceci n'est pas un argument en faveur de la théorie B. Ceci ne nous dit pas que nous sommes dans un monde B. D'autres choses nous le disent, et nous en entendrons ces deux jours-là. Okay. Ça, ce n'est pas le but de mon exposé. Ceci est un argument contre l'affirmation selon laquelle notre phénoménologie endurantiste, notre expérience endurantiste qui est de type A, implique que nous vivons dans un monde endurantiste de type A. Rappelez-vous les citations que j'avais mises au début qui disaient que l'expérience était la chose la plus importante, l'argument le plus important qui écrasait tous les autres et qui devait donc nous démontrer que la théorie A est la bonne théorie. Ce que je veux dire, c'est précisément le contraire de ceci. Et ce que je voulais démontrer avec tout ce que j'ai dit avant, j'espère le démontre. La thèse ici est donc que notre expérience est neutre en ce qui concerne la réalité. Notre expérience est ce qu'elle est. Nous avons, je pense, les intuitions endurantistes. Nous avons, je pense, une conception intuitive du temps qui passe, etc. Donc, une conception intuitive qui correspond à la théorie A. Mais cette expérience, étant ce qu'elle est, est tout simplement neutre par rapport à ce qu'est la réalité. Il faut donc d'autres outils, par exemple la métaphysique ou la physique, pour dire ce qu'est la réalité, mais pas notre expérience. Je vais prendre encore ici un autre exemple qui, cette fois, ne concerne pas directement le passage du temps, mais qui concerne vraiment l'endurantisme, donc vraiment l'intuition endurantiste. Okay. Alors ça, c'est une expérience faite par Scholl, j'ai la référence après, où je n'ai pas réussi techniquement à mettre l'animation ici dans mon PowerPoint, donc vous devez imaginer que ces carrés noirs sont en train de bouger, en train de se promener sur l'écran, et que par moments, ils passent derrière ces poteaux, derrière ces zones où ils sont cachés. Donc à un moment donné, il y a un carré qui est caché, puis qui réémerge de l'autre côté de la zone où il est caché. J'espère qu'imaginativement, vous pouvez produire l'animation que je n'ai pas su mettre ici. Alors, il s'agit d'une expérience qui a diverses variantes, évidemment, ça c'est une des variantes les plus basiques. Et ce qui a été établi par ces expériences, c'est que la continuité spatio-temporelle et l'identité numérique l'emportent sur la différence qualitative. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Ça veut dire que même si le carré qui passe derrière une de ces zones qui le cache réémerge comme étant un cercle, les sujets vont en général dire que c'est le même objet qui a été caché et qui a réémergé de l'autre côté. Même si en fait il y a un carré qui disparaît et un cercle qui apparaît. Du moment qu'il y a une sorte de vitesse, de continuité qui est préservée, le fait que l'objet change qualitativement ne va pas faire dire au sujet qu'il s'agit d'un autre objet. Les gens vont continuer à dire c'est le même objet, sauf qu'il a changé. Et dans différentes variantes de l'expérience, ils se sont aperçus qu'il faut des changements qualitatifs énormes pour que les gens cessent de dire que c'est le même objet. Okay. Il faut que la couleur change, que la forme change, que la taille change, et ceci de façon très significative, pour qu'on dise que c'est un autre objet, hein, qu'il y a un objet qui a disparu et un nouveau objet qui est apparu. Si on ne fait pas un changement très radical, alors les gens vont dire c'est le même objet qui a disparu et qui réapparaît de l'autre côté, sauf qu'il a changé, comme finalement tous les objets peuvent changer. Donc, on a ici ce que Scholl appelle un « temporal same object advantage ». Donc, nous avons vraiment cette intuition que c'est le même objet. Et que « the principle of spatio-temporal continuity », donc de la continuité, « seems to be wired into our minds in a deep way, controlling how we experience the world okay. ». Donc, l'idée, c'est que et bien sûr, c'est de cette façon-là que ces expériences sont faites, c'est que finalement, que nous le voulions ou pas, nous allons avoir l'intuition, l'expérience qu'il s'agit du même objet dans tous ces cas de figure. Et peu importe ce que nous en pensons, parce que finalement, nous savons tous très bien que sur un écran d'ordinateur, c'est toujours, de toute façon, des points différents qui s'allument les uns après les autres et qu'il n'y a de toute façon pas de mouvement véritable dans ces cas-là. Ils ont aussi fait des expériences avec des objets réels où ils passaient des objets derrière un arbre et des choses comme ça pour éviter justement ce biais-là. OK, donc encore une fois, cette illusion ou ce suivi, ce tracking reste valable même lorsque les participants savent ou même lorsqu'on leur a dit explicitement qu'il s'agit d'objets différents. Okay. Nous avons ici une distinction à faire donc, entre ce qu'on pourrait appeler l'ontologie subjective et l'ontologie objective. On pourrait dire que nous avons une ontologie subjective qui est endurantiste et qui correspond en fait à notre phénoménologie. L'ontologie subjective, c'est un peu une façon d'articuler ce qui se passe dans notre expérience, dans notre phénoménologie. Et l'ontologie objective, bon, c'est ce qui est censé être la réalité du monde. Okay. L'idée, c'est que notre système perceptuel interprète les stimuli externes d'une manière endurantiste de type A, parce qu'il est, comme le dirait Scholl, « wired » de cette façon-là, c'est-à-dire nous sommes câblés de façon contingente à percevoir le monde de cette façon-là. Et Prosser, dans un de ses articles, mentionne l'idée que peut-être cela nous donne un avantage du point de vue de la théorie de l'évolution. Peut-être que ça nous permet d'être plus rapide, de réagir plus rapidement. C'est une spéculation où je n'irai pas plus loin, mais il y a probablement quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, notre expérience en réalité est neutre par rapport à ce qu'il y a dans la réalité. Et il n'y a pas d'implication entre phénoménologie et métaphysique. Okay. Alors, encore deux ou trois choses à ajouter. L'idée, c'est que cette phénoménologie endurantiste que nous avons, n'est pas une chose à rejeter pour les raisons que j'ai dites. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une description sophistiquée de notre expérience sensorielle. Et en tant que telle, elle a sa place et son utilité, puisque nous voulons faire de la phénoménologie, nous voulons, au sens où nous voulons comprendre comment est structurée notre expérience du mouvement, du passage du temps, de la persistance à travers le temps, etc. D'accord. Donc il s'agit d'une description sophistiquée, utile, philosophiquement et psychologiquement pertinente de notre expérience. Mais ce n'est pas une découverte conceptuelle ou pas une réalisation pensée philosophique profonde au sens où nous découvririons quelque chose sur la nature de la réalité à travers ceci. Et ce que je suis en train de dire a été mis en lumière par d'autres dans d'autres domaines de la philosophie. Alors, je ne vais pas du tout me lancer là-dedans, ça demanderait un exposé à lui tout seul, mais il a été défendu que des intuitions sémantiques que l'on utilise, par exemple, pour développer des théories de la référence, sont relatives à une culture. Il a aussi été discuté que des expériences de pensée en épistémologie et des intuitions qui y sont utilisées peuvent être facilement manipulées. Selon l'ordre dans lequel on présente des expériences de pensée aux participants, les résultats varient, par exemple. Ce qu'on voit ici, c'est que les intuitions, de manière générale, dans différents domaines de la philosophie, doivent être utilisées de manière extrêmement prudente si on voudrait les utiliser comme guide vers la vérité ou la réalité ou quelque chose comme ça. Je mentionne ceci au passage juste pour dire que le cas auquel je m'intéresse aujourd'hui est un cas qui, de manière générale, peut se retrouver aussi ailleurs en philosophie. Mais je n'en dirai pas plus de ces choses-là. Mais lisons tout de même cette citation qui exprime bien l'idée générale. Intuitions track more than just the philosophically relevant content of the thought experiments. They track factors that are irrelevant to the issues thought experiments attempt to address. Such sensitivity to irrelevant factors like socioeconomic status, cultural background, the order in which one considers various thought experiments, undermines intuition status as evidence. Evidence so unstable risks being discounted as not being truly evidence at all. Furthermore, given that intuitions vary in these ways, there is unlikely to be a fixed set of intuitions about a particular thought experience to which we can appeal. Donc on a un paragraphe ici, il résume un point de vue général qui est celui que je voudrais avoir à l'esprit aujourd'hui pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'être très prudent et très attentif lorsqu'il s'agit d'intuition et de ne pas leur faire jouer un rôle qu'elles ne peuvent pas jouer. Elles peuvent jouer un rôle lorsqu'il s'agit de comprendre notre expérience et de faire une analyse de notre expérience et de notre phénoménologie, mais elles ne doivent pas avoir le statut d'une sorte de preuve ou d'argument pour quelque chose qui serait le cas dans le monde. Maintenant, dernier slide, après je m'arrête. Il y a ce qu'on pourrait appeler des intuitions expertes. D'accord ? Nous, philosophes, finalement, lorsque nous réfléchissons à l'endurantisme ou au perdurantisme, nous n'avons pas des intuitions du type « la première chose qui me passe par la tête ». D'accord ? Nous avons réfléchi, pour certains d'entre nous, depuis des années et des décennies à ces mêmes questions. Donc, nous devrions avoir de bonnes intuitions, des intuitions qui peuvent être de bons guides vers des vérités métaphysiques. Et c'est exactement ce type de choses que, par exemple, Martin Niederhümelin a à l'esprit dans les citations que j'ai mentionnées précédemment, sur lesquelles elle insiste. Le problème avec ceci, c'est que même des philosophes entraînés et sérieux ne sont pas forcément fiables. Donc l'expertise, en général, n'est pas un remède contre des biais possibles. Toutes sortes de biais qu'on peut avoir, et toutes les manières dont on peut être biaisé peuvent se retrouver là. Et les philosophes, parce qu'ils sont philosophes, ne sont pas moins vulnérables, par exemple, à des excès de confiance, ou des excès de généralisation, ou la persistance de croyances. Et certains diraient, et je le pense également, qu'un haut niveau d'expertise peut même fournir encore davantage de manière de s'égarer, dans le sens que, en travaillant depuis des années et des décennies sur, par exemple, la théorie A ou la théorie B du temps, on devient, comment dire, de plus en plus intégré dans une machinerie qui a ses vertus, et qui va amener en fait des biais supplémentaires dans nos propres intuitions. Donc nos intuitions risquent d'avoir des biais théoriques encore peut-être même plus lourds que des intuitions de la fameuse femme de la rue qui n'a pas encore été, disons, infectée par toutes ces théories. Donc on peut évidemment corriger certaines de nos intuitions, mais on peut aussi avoir des biais supplémentaires. Donc nous pourrions être tentés de penser qu'en tant que philosophe, nous avons des intuitions meilleures et plus valables, mais en réalité, nous pourrions très bien être simplement en train de reformuler des impressions intuitives initiales, d'accord, au mieux. Et au pire, nous pourrions être en train de reformuler des impressions intuitives initiales plus une charge théorique qui nous fournit un biais supplémentaire. Donc, en tant qu'experts, nous devrions être même encore plus prudents avec nos intuitions que si nous ne sommes pas experts. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie.